Amen. Voilà, on est sur Corinthiens et on a vu déjà différentes choses que Paul nous a dit. Premièrement, il nous a parlé sur l'unité dans le message. Et ici, Paul, dans ce nouveau verset qu'on va lire dans 1 Corinthiens 2, hein, le chapitre 2, versets 6 à 16, Paul nous parle d'être unis dans la sagesse de Dieu. Mon objectif ce soir, si vous voulez, c'est de nous motiver à grandir. Nous motiver à grandir dans la sagesse de Dieu. Et comme je vous ai dit, on ne va pas les lire, mais si vous voulez savoir qui c'est la sagesse de Dieu, lisez Proverbe 8. Proverbe 8. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pierre nous le dit, croissez dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous devons avoir la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on passe à la vraie connaissance de cette sagesse et comprendre aussi les rôles du Saint-Esprit dans notre vie. Les rôles du Saint-Esprit dans notre vie. Hein? Roland, tout à l'heure, chantait le cantique du Saint-Esprit, n'est-ce pas, hein? Inonde-nous, là. Hein? Inonde-nous, Esprit de Dieu. Hein? C'est quoi la
fraîche rosée?
Voilà, la fraîche rosée. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on connaît la sagesse de Dieu? Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans ce verset-là, qu'on va lire, et ensuite on va les voir, hein, pas une à la fois, mais on va voir ce que Paul nous dit à propos de cette sagesse de Dieu, et on va comprendre les rôles du Saint-Esprit en cela. Lisons chapitre 2, verset 6. On peut lire verset 1, c'est un peu le résumé de la semaine dernière, jusqu'au verset 16. Mais le sujet, c'est le verset 6. Hein. Je vais vous les lire. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, bien sûr, sagesse humaine, hein, mais sur la démonstration de l'esprit et des puissances, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà. Et on parle au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse des dieux mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait prédestiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même pas jugé par personne, car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Hein, c'est fort comme... Et de là, on peut puiser des choses merveilleuses pour chacun de nous. Premièrement, au verset 6, la première verset dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. C'est-à-dire, il existe une sagesse divine. Le monde dans lequel Paul il a créé l'église de Corinthe, c'était un monde de Grecs qui était fondé sur la connaissance, sur les beaux parleurs et tout ça, sur la soi-disant sagesse des hommes. Voilà pourquoi Paul, il leur dit combien ce qui semblait à l'homme une folie, c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est ça, et Dieu, les soucis de Paul, encore une fois, comme je vous ai dit, et mon souci aussi, parce que je répétais ce que Paul dit, hein, les soucis de Paul, se décroître dans cette sagesse, croiser dans la connaissance de Jésus-Christ. Il faut croître dans cette sagesse, et non dans la sagesse humaine. On a beau faire des grandes études, de connaître tant de choses du monde, mais si on ne connaît pas Jésus-Christ, on ne connaît rien. On ne connaît rien. Voilà pourquoi le souci de Paul, c'est de nous faire croître, de faire croître les Corinthiens dans la sagesse de Dieu, et pas dans celle humaine. Ce que les hommes trouvaient stupide, qu'est-ce que c'est qu'ils trouvaient stupide, les hommes?
Mais la sagesse de Dieu.
La folie de Dieu et les messages de Dieu. Hein? Ce que les hommes ils trouvaient, c'était une folie stupide. Et c'est vrai aujourd'hui, vous parlez à des gens et vous lui parlez du message de Dieu, de la sagesse. Parce que c'est une vraie sagesse dans laquelle Dieu il est rentré dedans pour faire quoi? Pour sauver des êtres tels que nous. Mais l'homme dit, c'est stupide de penser ça. Mais cette pensée, il renferme une profondeur, un soupçonné pour ceux qui ne croient pas.
Ils
ne croient pas. C'est ça le souci. Dieu veut que nous possédions cette sagesse. À l'image du Christ, qui était, dès son enfant, vous en souvenez, dans Luc, c'était marqué qu'il était rempli de sagesse. Lorsqu'il était dans le temple, il disait, mais d'où est-ce que lui vient toute cette sagesse? Et Dieu, il veut que nous ayons cette même sagesse, pour que nous puissions parler tout autour de nous. La sagesse, elle est personnifiée en Jésus-Christ. On ne va pas les lire, les proverbes 8, oui.
Le verset 16, il y a un effet. Qui a connu la pensée du Seigneur? Donc c'est Dieu le Père en parlant.
Exactement.
Et nous avons la pensée de Jésus-Christ. Je vois ce moment pour le Seigneur, Jésus le Seigneur aussi. Mais là, c'est la pensée de Dieu, mais nous avons la pensée de Dieu.
Il est venu ici.
Christ.
C'est ça. Et dans Colossiens 2, 3, regardez ce qu'il dit, Paul. Il nous présente Christ. Il dit « En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ?» Connaître Christ, c'est être sage. Sage, le proverbe, encore verset, dit « Sage est celui qui sauve des âmes. » Comment est-ce qu'on sauve un âme? C'est lui parlant de Christ. Et c'est ça la grande sagesse. Et c'est ça la sagesse qu'il nous faut. Et donc Dieu il nous dit que si nous n'avons pas cette sagesse, hein, où est-ce que c'est ce verset? Nous n'avons qu'à la demander. C'est dans Jacques. La sagesse, Dieu, il est prêt à nous les donner. Et il désire que nous ayons toutes ces choses-là. Et comprend, nous avons besoin de comprendre le message de Dieu. De comprendre Dieu et le message de Dieu. Pourquoi faire? Parce que nous devons pas seulement proclamer en dehors à ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi pour nous exhorter mutuellement. Et quand nous sommes dans la peine, dans la tristesse, qu'est-ce que c'est qu'on dit? Mon frère, ma soeur, je vais prier le Seigneur pour qu'il puisse intervenir. Lui qui est Dieu, lui qui a toute connaissance, lui qui a toute la sagesse. Et c'est ça que Paul nous dit. Hein? Et en plus, hein, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est que pour connaître, c'est quelque chose d'inimaginable. Hein? Il nous a dit dans verset, je ne me souviens plus lequel, que les anges, ils regardent l'Église pour comprendre la sagesse de Dieu. C'est quelque chose d'inimaginable. Si seulement nous y pensons, nous devrions être beaucoup plus attentifs à cela. Parce que, et des fois, lorsque je pense à ça, je me sens un peu, pas attristé, mais affligé. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu, il me regarde, mais en plus, je regarde des anges sur l'église dans laquelle je suis, parce que ces anges, ils veulent connaître. Et c'est vrai, les anges, ils se disent, mais comment ça se fait que Dieu a fait grâce à ces hommes-là, qu'il ne faut avoir aucune confiance en eux. Et nous, qui nous sommes ces créatures, il ne nous a pas donné ces choses-là. Et alors, il nous regarde, il nous scrute comme à l'église et avance. Il nous regarde, pas seulement les gens dehors, mais les gens, les anges.
Là, d'ailleurs, quand c'est réuni, il y a des milliards d'anges avec nous, les esprits des justes aussi.
Vous savez, il y a ce verset, mais on va y arriver, hein, lorsqu'il va parler des hommes et des femmes. Hein, les anges, ils regardent les femmes, ils les reconnaissent par les cheveux longs. Hein, ça c'est, et on va y arriver. Hein, hein, et à quoi on reconnaît une femme d'un homme, elle est vue derrière? Pour les cheveux longs. Aujourd'hui, vous regardez l'homme et une femme, vous le voyez derrière, vous ne les connaissez pas. Et les anges, ils sont là, qui regardent. Mais comment ces gens-là, ils utilisent cette grâce de Dieu? Et savoir cela seulement lorsque je tombe dans le péché, je me dis, pas seulement Dieu ma vie, mais les anges qui essaient de comprendre. Et, oui, par moi qui suis l'Église, par vous qui vous êtes l'Église, de savoir comment Dieu.
Parce que eux, ils ont une nature, ils n'ont la vue.
Voilà, c'est ça. Voilà ce que Paul, il nous dit. Hein? Et c'est une question à réfléchir. Les anges apprennent sur Dieu, sur sa sagesse, sur son amour, sur son intention, en observant ce que Dieu a fait dans l'Église. Ils apprennent toutes ces choses, parce que Dieu ne les a pas instruits, il ne leur a parlé de leur amour et tout ça. Mais ils voient tout ça dans l'Église. Et c'est ça que toute la sagesse de Dieu, elle est manifestée. Paul, pour les Éphésiens, qu'est-ce que c'est qu'il prie Paul dans Éphésiens 17? Pour qu'ils reçoivent un esprit de sagesse, des révélations, pour faire quoi? Pour mieux connaître Christ. Un esprit de révélation pour mieux connaître Christ. Pour les Colossiens, Paul les prie, Colossiens 9, afin qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est ça que... Alors, on peut se demander, est-ce que nous sommes sages? Mais sages comment? Comme la sagesse des hommes?
Non.
Ou la sagesse de Dieu? Paul, il nous l'a dit, Jacques, il nous l'a dit, et Dieu il nous l'a dit, si vous manquez de sagesse, demande-la. Dieu, il ne veut que ça, que nous soyons sages. Hein? Et c'est quelque chose. Et si ce n'est pas. Et Dieu, la sagesse selon Dieu, comme je dis. Hein? Mais si ce n'est pas la sagesse selon Dieu, alors il y a problème.
C'est bien fait Salomon, la sagesse
intelligente.
Il a parlé et Dieu l'a levé.
Mais c'est ça. Paul, il voudrait nous parler de cette sagesse. Mais remarquez une chose. Pour qui c'est cette sagesse? Pour qui c'est cette sagesse? Où est-ce qu'elle est prêchée? Où est-ce qu'elle est enseignée, cette sagesse de Dieu? Parmi les parfaits. Qui sont les parfaits?
Ils ont mis à part au Dieu.
Attention, ce n'est pas une perfection de... Mais c'est une, c'est une perfection des positions.
Tu as déclaré parfait.
Des positions. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous tombons dans les péchés. Mais cette sagesse-là, Paul nous le dit, elle est révélée au parfait. Pas parfait parce qu'on est des grands têtes ou des très intelligents, mais par notre position, parce que nous a placés, il nous a élus, nous sommes saints. Et toutes ces choses-là, on devient parfait par la sanctification. Par la sanctification. Et c'est ça que Paul nous dit.
Au mieux, on accomplit des mots parfaits.
C'est exactement ça que Paul nous dit.
Fait, accompli, mieux.
Et voilà, parce qu'il dit parmi les parfaits. Alors, qui sont ces parfaits? Bien sûr, ces termes, c'est synonyme de chrétien, quoi. Parfait, en Christ, n'est-ce pas? Mais encore une fois, par position. Et c'est là, on peut le prendre du contexte, si vous regardez le verset 7. Il dit, nous qui prêchons la sagesse de Dieu, nous qui prêchons, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. C'est seulement aux gens qui peuvent les comprendre. Et Paul, il évoque dans tous ces versets les bénéfices de la vie de Christ. Et pour qui c'est le bénéfice de cette vie de Christ? C'est pour les parfaits. C'est ceux qui ont cette position. Parce que Éphésiens, il nous dit, nous sommes assis à la droite de Dieu, hein, Jésus-Christ. C'est là notre position. Mais c'est ça qu'il nous veut dire. Si vous voulez, c'est par notre position, encore une fois. Hein. Mais c'est là, il va se réaliser lorsque nous serons auprès du Seigneur. Pour le moment, nous le vivons. Voilà, nous sommes ici, mais nous sommes là-haut. Mais c'est une perfection qu'il dit à ceux qui sont parfaits. C'est une perfection, c'est l'absolu. Parce que Jésus, il a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Est-ce qu'on peut être saint comme notre Père? Mais ça, c'est l'absolu de Dieu. C'est en tant que position.
Comme Dieu voit l'homme pécheur avec le sang de Jésus, lui, là, il est parfait.
C'est voilà pourquoi d'être parfait. Et Paul l'emploie en différents passages, Colossiens 1:28 par exemple. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait ou mûr en Christ. C'est seulement en leur apportant ce message, en leur parlant de cette sagesse qui est Jésus-Christ, alors eux aussi, ils seront parmi les parfaits. Mais encore une fois, parfaits pas, hein, mais par la position. Parce que nous sommes assis à la droite de Dieu. C'est ça, notre position. Hein. Et il nous faut devenir sages. Si nous ne le sommes pas, il faut devenir sages. Hein. Et nous sommes appelés à grandir, à grandir. La vie chrétienne, c'est un cheminement, c'est comme une escalade d'une montagne, et il faut constamment monter, jamais s'arrêter. Si on s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas. Mais nous confessons, et Dieu nous donne la force pour pouvoir repartir. Et Paul lui dit qu'il me prêche quelque chose qui m'a aussi pas effrayé, mais c'est la vérité. Et Paul lui dit, il prêche cette sagesse divine qui est parmi ceux qui ont accepté l'évangile. Donc c'est une. Et Jésus nous le rappelle dans Matthieu 7. Hein. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Paul dit que les choses les plus complexes de la parole, de la sagesse de Dieu, justement, ils ne seront enseignés et ils ne doivent être enseignés. Encore, les choses les plus complexes, je parle. Je ne parle pas du salut, hein. Les choses les plus complexes, parce que nous devons grandir. Comme je dis toujours, je connais Christ, oui, mais il faut grandir. Fu grandiva. Il faut entrer dans cette grandesse, dans cette sagesse, hein, que il les enseigne qu'à ceux qui sont passés par la croix. Ceux qui sont passés par la croix, et aussi à ceux dont la maturité, elle est passée par les mains du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous nous convertissons, c'est juste le commencement. Voilà pourquoi on appelle ça une nouvelle naissance. Un enfant, il fait quoi? Il vient au monde, il faut qu'il croie, n'est-ce pas? Ça serait un peu pénible pour des papas et des mamans qui voient leur enfant qui reste tout petit toujours. Mais non, il faut grandir. Et c'est ça que Paul nous dit. Et si vous voulez, on voit la sagesse de Dieu depuis le commencement. Par exemple, la création, il y avait cette communion et cette harmonie entre Dieu et l'homme. Et cette communion, il a été cassé par le péché. Mais le seul but que Dieu il avait, c'était justement que les gens, que l'humanité puisse connaître sa sagesse. La sagesse qui est Jésus-Christ. Comment un Dieu auquel on a fait tant de tort, il a pu escogiter un plan comme ça et sauver des êtres comme nous. Et ça, c'est la vraie sagesse que l'homme ne comprend pas. Voilà qu'il appelle ça une folie. C'est ça qui est très important. Et les créations. Et aujourd'hui, le but, c'est toujours le même. Il n'a pas changé. Au cours de tous les âges, Dieu a œuvré dans un seul but. Que la grandeur, la puissance, la sagesse de Dieu, il puisse être connu. Jésus, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça ne suffit pas de croire en Dieu, mais il faut croire en Dieu et en lui. Et toutes ces choses-là, ils ont été réunies dans une seule et unique personne, c'est Jésus-Christ. Nous voudrions voir le Père, vous en souvenez? Il dit, mais regarde-moi, c'est pas. Tu me vois et tu vois le Père. Voilà pourquoi Dieu il a tout réuni dans une personne.
Donc le même esprit, la même nature que moi.
C'est ça le.
Mon esprit, je vous demande.
C'est ça que Dieu. Et c'est ça la sagesse. Il a voulu révéler cette sagesse à une personne. Et tout cela, c'est Jésus-Christ. Croissez dans la connaissance de Jésus-Christ. Hein? Et voilà pourquoi. Mais nous savons que c'est Jésus, cette sagesse de Dieu. Il a été crucifié, il est ressuscité, mais la Bible nous dit, la sagesse de Dieu nous dit, qu'il a envoyé pour sauver, il a été rejeté, il est mort, il est ressuscité, et il nous dit qu'un jour il va revenir, et il nous dit que tout genou va fléchir devant lui. Tous ceux qui se croyaient sages, qui jugeaient cette sagesse de Dieu des folies, un jour, ils doivent tous la reconnaître. C'est ça la grandeur. Alors, des fois, on peut se demander, est-ce qu'on peut saisir les dimensions spectaculaires de cette sagesse de Dieu?
La profondeur, la largeur, la hauteur.
Il disait quoi, Paul, dans Romains 11? « Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements ils sont à son âme. » On ne peut pas. Mais tout est renfermé dans cette sagesse de Dieu. Et en continuant, hein, au verset 6 jusqu'au verset 10, il dit que cette sagesse, elle est inaccessible à l'homme naturel. À l'homme naturel. Il est inaccessible. Ni par la raison, il nous a dit, verset 6 et 8, hein. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer la distance qu'il y a entre la raison de l'homme et sa raison. L'homme avec sa raison, il n'arrive pas. Et il nous le dit, ni par la raison, l'homme, il peut réfléchir, raisonner, il n'y arrivera pas. Ni de ce siècle, et ni d'un autre siècle, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Et voilà pourquoi il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Pourquoi mystérieuse et cachée? Parce qu'elle n'avait jamais été révélée auparavant. Elle a été cachée, mais maintenant elle est révélée. Et aussi c'est compréhensible. À Daniel, il lui avait dit, tiens cachées les choses que je t'ai dites. Hein? Et tiens-les cachées jusqu'au jour où l'intelligence, où la sagesse, où la compréhension, où le Saint-Esprit serait venu ici-bas et il aurait ouvert l'esprit. Sinon, l'homme naturel, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas recevoir cela. Il ne peut pas, ni par la raison.
Le premier marié, c'est ça qui dit, notre foi ne sera pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais notre foi est fondée sur la sagesse de Dieu.
C'est ce que Paul nous dit. Hein. On ne peut pas comprendre cela naturellement. L'homme naturel, on ne peut pas. Il lui faut quoi? Il lui faut une révélation. Il lui faut une révélation extérieure, car aucune autre personne ne peut lui faire comprendre ça. Hein? Elle était cachée de tout temps, il nous a dit, de toute éternité. De tout temps, de toute éternité. Hein? Et pour être révélée au bon moment. Hein? Comme je dis toujours, comme on dit toujours, Dieu il a son temps. Dieu il a son temps. Quand c'est qu'il a révélé cela? Quand il y avait la Pax Romaine. Hein? Vous voyez, il avait construit des routes, des transports et tout ça partout à droite à gauche. Ça, c'est le moment pour que l'Évangile puisse se répandre tout autour de nous. C'était le moment de Dieu. Voilà pourquoi il dit, ni par la raison, ni par les sens, au verset 9, ni par les sens, ni les cerveaux seuls, ni les cinq sens, ni l'œil, ni l'oreille, ni les sentiments permettent de comprendre la sagesse de Dieu. On ne peut pas la comprendre. Et Paul lui cite justement des versets ici, là, des versets d'Ésaïe. Par exemple, Ésaïe 64, 3, il dit « Jamais on n'a entendu dire et jamais l'œil n'a vu autre Dieu que toi qui fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Qui dit telles choses pour qui? Pour ceux qui se confient en lui. Le salut, c'est la première étape. Sinon, on n'y arrivera pas à comprendre ces choses-là. Et il cite aussi Ésaïe 52, 15, qui dit, « Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait été raconté et apprendront ce qu'ils n'auraient pas entendu. » Qui c'est qui a fait tout ça? Qui leur a parlé du Messie. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est par révélation. Et la sagesse de Dieu, c'est ça. Elle est accessible à l'homme qui se confie en Dieu, à l'homme qui a fait confiance en Dieu, qui se repentit de ses péchés et qui a suivi Jésus dans sa croix. Alors c'est là que le Saint-Esprit le prend en main et le dirige en toutes choses. Sinon, il ne peut pas. La sagesse de Dieu, il est inaccessible à l'homme naturel. Mais par contre, elle est accessible à l'homme spirituel. Et nous a dit, verset 10 à 16, on ne va pas le relire, hein, à l'homme spirituel. Comment? Par la révélation de l'Esprit, pas pour autre chose. Il nous a dit, le Saint-Esprit œuvre pour que l'on découvre petit à petit les perles de la sagesse de Dieu. Il nous parle de toutes ces choses-là, l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît tout de Dieu. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne d'autre ne pourra nous parler de Dieu. Mais il n'y a que lui. Et c'est par sa révélation. Et il nous a dit, hein, à nous, Dieu l'a révélé, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. C'est pas que nous méritions, c'est comme le salut. Hein. On aurait dû juste connaître l'amour de Dieu par et à travers Jésus-Christ. Non, mais Dieu il nous révèle encore des choses sur sa personne. Il se révèle. Et pourquoi il le fait? Il le fait par grâce. Par grâce. Et ici, ce que j'aime bien, il y a les mots « nous ». Nous, est-ce que c'est tous les chrétiens, ça? Par révélation de l'Esprit, hein? Révélation de l'Esprit. Est-ce que c'est tous les chrétiens? Pouvons-nous faire pour nous ces paroles-là? Nous, à moi, le Saint-Esprit, il me révèle. Éphésiens 3, 3, 5 me dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Comme je viens de l'écrire en quelques mots, révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. Ces mystères n'avaient pas été portés à la connaissance des fils de l'homme dans d'autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes. Alors, c'est nous, qui c'est qui? Qui c'est nous? Est-ce qu'on peut utiliser pour nous? Non, pas pour nous. Pourquoi? Parce que c'est par révélation de Dieu. Et à qui Dieu faisait des révélations? Aux apôtres et aux prophètes. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui dans les églises écuméniques? Ah, Dieu m'a révélé. Non, Dieu il ne parle plus. Il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. Et ici, il est clair. Hein? Et qui est au bénéfice de ces révélations? Les apôtres, les prophètes. Donc il est dit dans Éphésiens 2:20, qui c'est le fondement de l'Église. L'Église est basée sur ce fondement-là, les apôtres et les prophètes. Voilà, donc c'est nous. Mais ensuite, il y a dans nous, nous on peut y rentrer, nous en tant que chrétiens, mais par l'illumination, en lisant la révélation. Ça, c'est l'illumination, ce n'est pas la révélation. Nous ouvrons la Bible et le Saint-Esprit illumine notre esprit. Un verset qu'on a lu 10 000 fois, et voilà, il illumine notre esprit. Il dit, ben, comment j'ai pas compris ce verset avant? C'est Dieu, le Saint-Esprit. Il illumine notre esprit. Il illumine, c'est plus de la révélation ou de l'inspiration, mais c'est de l'illumination. Voilà, c'est nous. C'est pas, on ne peut pas utiliser pour nous chrétiens d'aujourd'hui ce mot nous. Nous ne sommes pas dedans. Pour nous, il y a l'illumination. Parce que nous sommes conduits par l'esprit à connaître la sagesse des dieux. Hein? L'illumination. C'est dans ce sens que pour l'Esprit, qu'il écrit à Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Éphésiens 1, 17. Qu'il illumine. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre notre esprit et qui nous révèle la grandeur de la sagesse de Dieu. C'est formidable les choses. Et dans les deux cas, hein, soit pour les prophètes ou les apôtres, et nous dans l'illumination, il y a l'intervention du Saint-Esprit. Il y a l'intervention du Saint-Esprit. Personne aujourd'hui, il peut dire, ainsi m'a parlé Dieu. C'est le Saint-Esprit qui intervient. Aux apôtres, Jésus, il leur a dit, ne vous occupez pas de ce que vous allez dire. Parce que l'Esprit viendra sur vous et il vous dira, c'est lui qui va rappeler toutes les choses que Jésus a fait, qu'il a dit, c'est par le Saint-Esprit. Nous avons la parole. C'est ça.
Pourquoi il avait dit au témoin, parce qu'il est 11, ne faites plus attendez de votre esprit.
Et c'est exactement Paul qui nous dit ces choses-là. Il y a illumination. Et combien est nécessaire l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie? Si l'intervention du Saint-Esprit il n'est pas à nous, nous ne sommes plus pas en tant que perdus et du salut, mais perdus dans notre vie. Nous n'avons plus aucune force. Hein? Le Saint-Esprit, pourquoi l'intervention du Saint-Esprit? Comme je dis tout à l'heure, parce qu'il sonde, il comprend, il perce les profondeurs de Dieu. C'est lui qui, il est Dieu lui-même, il sait connaître. Qui mieux que Dieu peut connaître Dieu? Et Saint-Esprit est Dieu. Hein? Son essence, ses œuvres, ses intentions, il nous est dit, c'est 10, c'est là, 2, 10. Et aussi le Saint-Esprit, parce qu'il nous permet de comprendre les cadeaux de Dieu. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient et qui illumine nos cœurs, pour que nous puissions connaître ce cadeau de Dieu, nous n'allons jamais le comprendre. Vous comprenez, vous, pourquoi Dieu vous a aimé? Et pourquoi il vous fait ça gratuitement? Vous qui n'avez pas d'argent, venez. C'est cela, exactement ce que Dieu nous dit. C'est lui qui fait tout. Hein? Et aussi parce qu'il nous enseigne, comme il est dit ici au verset 13, il nous enseigne selon notre maturité. C'est-à-dire que plus nous connaissons le Seigneur, plus nous étudions la Bible, plus nous la méditons, plus le Saint-Esprit nous révèle des choses.
Et Paul a dit, je me suis fait tout en tous afin d'abuser. C'est bien à un niveau, chaque niveau de personne pour le terminer.
Voilà pourquoi, c'est un peu comme les trois apôtres que Jésus m'amenait toujours auprès de lui. Est-ce qu'il les aimait plus que les autres? Non, mais ces apôtres, ils étaient attachés à Jésus.
C'est pour ça que dans les réveils, c'est toujours le peuple de Dieu qui est revenu à la parole, et à partir de là, ils ont progressé plus, mais c'est la parole
exactement
qui fait de travailler dessus. Quoi.
Et la réforme, ça s'est passé comment? Ils sont revenus à la parole. Luther, il a écrit sa Bible, voilà, et il a répandu la Bible parmi les peuples parce qu'il était interdite. C'est en revenant à la parole que ces choses-là, et c'est en étudiant la parole. Vous savez, tous les humains, ils ont un esprit, mais tant que cet esprit, il n'est pas au contact avec le Saint-Esprit, il ne peut pas. Voilà pourquoi il dit c'est la sagesse de Dieu, elle est incompréhensible pour l'homme naturel. Mais par contre, il peut être comprise par l'homme spirituel. Pourquoi? Parce que spirituellement qu'on connaît Dieu. C'est pas avec la sagesse humaine. C'est spirituellement. C'est comme il dit à cet antique qui dit, c'est par la foi que nous marchons. Voilà, c'est par la foi que nous marchons. Nous savons ce qui nous attend, alors nous faisons tout pour. Et les gens du monde étaient dit, mais non, ça ne marche pas ça. C'est par la foi. Hein? Et l'Esprit de Dieu, il faut qu'il rentre en ces choses-là. L'illumination. Et ça c'est les contrastes entre les chrétiens et les non-chrétiens. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Hein? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Jugé. Hein? La Bible dit, occupez-vous de vos propres affaires. Jugez, voilà. C'est ça. Et si on est un homme, une femme spirituelle, alors on jugera. C'est dans la parole. Et nous, on n'est pas jugé par personne. Paul, il a dit, les gens qu'il accusait, il les jugeait de voler ou d'être tenu par les autres sans travailler. Il a dit, mais je m'en fous de votre jugement. Ce qui m'intéresse, c'est le jugement de Dieu. Voilà pourquoi c'est la sagesse de Dieu. On ne la comprend que par l'intervention du Saint-Esprit. Par l'intervention du Saint-Esprit. L'égoïste, comme on dit, il ne peut pas comprendre l'altruiste. L'égoïste qui s'est laissé nous. Tandis que le Saint-Esprit, Dieu, la sagesse de Dieu. Hein? Proverbe 8. La sagesse, il crie dans le boulevard, il crie dans le chemin. Il crie. C'est ça. Et c'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Car recevant le Saint-Esprit, lors de la conversion, ceux qui ont cru ont tout à fait, ont tout pour qu'ils puissent grandir. Pour grandir, il faut le Saint-Esprit. Car c'est lui qui nous tient par la main. D'ailleurs, l'avocat, hein, c'est celui qui est à côté de nous, hein, consolateur. Hein, voilà. C'est celui qui est à côté de nous, qui nous dirige, il nous prend par la main et il nous fait avancer. Bien sûr, si nous lâchons la main, alors on n'avance plus. On n'avance plus. Hein? Mais ce n'est, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu qu'on se comporte comme il faut, qu'on est mûr, qu'on est dans la maturité. Parce qu'on peut avoir l'Esprit de Dieu et agir toujours par notre propre pensée, par notre ancien. Oh, regardez, vous vous souvenez que Paul, il avait repris Pierre, hein? Hein? Quand il y avait des juifs, hein, Pierre il disait, oui, la loi de Moïse et tout ça, mais quand il y avait un païen, et Paul il a repris. Il a dit, tu ne dis pas les choses comme il faut. Et pourtant, Pierre, voilà pourquoi ce n'est pas avoir l'esprit, ce n'est pas dire qu'on est en pleine maturité. On peut toujours tomber, mais ce qu'il faut, c'est il faut s'attacher et nous laisser diriger par cet esprit. Voilà cette sagesse de Dieu dont je voulais vous parler. Et si on arrive à la cerner vraiment, si on arrive à la comprendre comme Dieu, il nous la montre à travers cette illumination, alors là, notre vie chrétienne serait d'un plein avantage pour chacun de nous. Amen.